Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Voici notre deuxième émission à Bamako, alors que s'ouvre aujourd'hui le 27e sommet Afrique-France. Alors bien sûr, la sécurité est partout, dans les débats, mais surtout dans la paralysie des rencontres. Restrictions de circulation, contrôle omniprésent, déploiement militaire impressionnant. Bref, la sécurité ferait presque oublier la vraie vie du continent, sa jeunesse, son dynamisme. Ici au Mali, 48% de la population a moins de 14 ans. Alors pour désamorcer la bombe politique de cette jeunesse que l'on dit désœuvrée, impatiente, une nouvelle religion est née, l'entrepreneuriat des jeunes. Clamé, déclamé, partout, dans des conférences de bailleurs de fonds, dans les pubs des magazines pour telle marque de téléphonie mobile, c'est un continent tout entier qui veut prendre part à cet élan. Jeune, tu es, jeune, tu peux créer ta boîte. Mais dans la réalité, à quoi correspond cette nouvelle fièvre ou ferveur ? Est-on en train de raconter une mauvaise blague aux jeunes ? Ces garçons et ces filles peuvent-ils incarner désormais le nouveau visage de l'afro-optimisme ? Bref, l'entrepreneuriat des moins de 35 ans est-il un mirage ou une vraie solution pour l'emploi d'une armée de diplômés déclassés ? Eh bien, nous allons en discuter avec nos invités issus de générations différentes. Hamidou Anne, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 33 ans, vous êtes sénégalais, vous êtes chroniqueur pour Le Monde Afrique et pour le site L'Afrique des idées, après une carrière dans des cabinets ministériels à Dakar, où vous résidez toujours d'ailleurs. Et vous écrivez des textes au vitriol contre les enthousiasmes affairistes, on va dire. Fatoumata Sango, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes malienne, jeune leader. Vous avez été l'une des déléguées du premier forum du président Obama de jeunes africains en 2010. Autant dire que ça a été le début de votre notoriété. Vous avez créé l'Association pour le développement de l'Afrique et vous travaillez aussi à la Banque de développement du Mali. Soyez la bienvenue également. Mossadegh Bali, bonjour.
Bonjour.
Mossadegh Bali, vous êtes fondateur, président, directeur général du groupe Azalaï Hotels, un des premiers groupes hôteliers multi-pays, authentiquement africains. C'est ce que vous aimez que l'on dise, non ?
Tout à fait.
Ouais. Clientèle africaine, compétence africaine, clientèle d'hommes d'affaires africains, ce que je peux confirmer parce qu'il n'y a pas de séchoir dans les salles de bain. Didier Akwete, d'Afrique Search, qu'on ne présente plus, qui passe toutes ses soirées depuis quelques temps à coacher de jeunes entrepreneurs pendant le sommet jeune de Bamako. Mais ce n'était pas du tout le cœur de métier de votre société de conseil en ressources humaines au départ.
Oh bah, vous savez, les ressources humaines mènent à tout. Le coaching des jeunes, ça fait partie de notre vocation. C'est vraiment de promouvoir les compétences africaines, les talents africains, et ces talents n'ont pas d'âge. Et aujourd'hui, qu'on peut les détecter encore plus jeunes, il faut qu'on fasse ce relais d'expertise entre générations.
Voilà, alors on va justement démarrer le débat. L'entrepreneuriat des jeunes est-il un mirage ou une vraie solution pour l'emploi sur le continent africain ? Mossadegh Bali, Didier Akwete, on trouve dans des études internationales, notamment la Banque mondiale, beaucoup de chiffres. Au moins 72% des jeunes Africains sont attirés par l'entrepreneuriat. 24% des Africains déclarent que la peur de l'échec les empêche de se lancer dans la création d'entreprises. 24%, c'est très peu, paraît-il, parce que c'est même le chiffre le plus faible au monde, hein, d'être paralysé par la peur pour monter sa boîte. Donc, les jeunes Africains seraient particulièrement optimistes, auraient cette capacité à oser. Est-ce que ça correspond, Mossadegh Bali, à ce que vous ressentez sur le terrain économique ?
Je dois dire oui. Les années immédiatement après les indépendances où les États recrutaient tous les jeunes diplômés, donc tout le monde quasiment était destiné à la fonction publique, ces années sont derrière nous. Et qu'aujourd'hui, pour avoir un emploi, il faut soit aller vers des entreprises privées ou alors créer son propre emploi. J'ai rencontré des jeunes, que ce soit à Bamako, que ce soit récemment au Forum des jeunes à Paris, que ce soit
organisé par le MEDEF international, le patronat
exactement,
français.
Que ce soit à Harvard, où j'ai donné une conférence
aux États-Unis,
à la Harvard Business School. J'ai rencontré des jeunes Africains qui sont vraiment attirés par l'entrepreneuriat, par l'auto-emploi.
Oui, bon, il faut dire que quand on est diplômé de Harvard, on n'a pas trop de soucis à se faire dans la vie, hein.
On n'a pas de soucis à se faire pour être employé. Mais ce n'est pas parce qu'on sort de Harvard qu'on est forcément un bon chef d'entreprise. Vous savez, l'entrepreneuriat, le métier de chef d'entreprise, ça s'apprend sur le métier. Je suis bien placé parce que moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai appris le métier sur le terrain, à côté d'un grand coach.
Oui, mais accessoirement aussi grâce à un MBA
qui était
à San Francisco.
Que, voilà, exactement. Mais j'ai appris à côté d'un grand coach qui était plus grand que Didier, mon père.
Je suis comme le coach, moi.
Oui, qui était dans le négoce alimentaire.
Qui était l'un des plus grands négociants de l'Afrique de l'Ouest dans les denrées alimentaires.
Oui. Mais dans l'hôtellerie, vous êtes parti de zéro.
Et dans l'hôtellerie, je suis parti de zéro parce que après 10 ans dans le négoce, je me suis dit... je voulais être plus utile à mon pays, justement créant des emplois. Et je me suis dit, bon, ben, j'avais fait une école de commerce, j'avais envie d'être beaucoup plus utile, créer de la valeur ajoutée, créer de la richesse. Et la meilleure façon pour moi, c'était d'aller dans une industrie. Mmh. J'ai regardé plusieurs industries. C'est par pur hasard que je suis tombé sur l'hôtellerie, parce que l'État du Mali vendait un hôtel. Voilà.
C'était la bonne époque.
C'était la bonne époque où les États privatisaient beaucoup d'entreprises, et une des entreprises maliennes possédait les deux plus grands hôtels de Bamako.
Grâce aux restructurations et plans d'ajustement structurel. Et Didier, à côté, alors vous, comment vous ressentez cette ferveur en ce moment pour les jeunes qui veulent créer, monter leur boîte?
C'est vrai qu'il y a une forte envie des jeunes de se lancer. Peut-être par défaut pour beaucoup de ces jeunes, parce que le marché n'offre pas assez d'opportunités d'employés, c'est clair. Pour 12 à 13 millions de jeunes qui arrivent sur le marché chaque année, vous avez à peine 3-4 millions d'emplois qui sont créés. Et ça, c'est ceux qui sont diplômés du supérieur. Mais au-delà de ça, vous en avez à peu près 130 millions qui sont perdus en nature parce qu'ils ne font même pas d'études supérieures. Donc beaucoup entreprennent par défaut parce qu'il n'y a pas d'emploi. Alors deuxièmement, la création d'emplois et de patrons, ça paraît sexy, hein, c'est-à-dire je suis mon propre patron, je me lève quand je veux, je rends compte à qui je veux, c'est pas du tout vrai. Le chef d'entreprise, c'est celui qui rend le plus de compte, parce qu'il rend compte à ses banquiers, à ses employeurs, à ses fournisseurs, à l'État. C'est extrêmement contraignant et beaucoup de jeunes sont désillusionnés assez rapidement. Je crois que cette discussion va nous permettre aussi de tirer un peu au clair certaines croyances, parce que les jeunes, effectivement, sont désespérés et pensent que le salut ne vient que par la création d'entreprise. Les États ayant failli en matière de croissance capable de générer des emplois avec les bailleurs de fonds, prône ce nouveau slogan, comme
c'est
on
ça.
L'a fait.
Donc des croyances largement entretenues à la fois par les grandes entreprises, par les bailleurs de fonds, par les organisations internationales.
Et les États eux-mêmes, parce que les États se rendent compte qu'aujourd'hui, leur politique économique ne permet pas d'absorber cette masse de jeunes qui arrivent sur le marché.
Amidouane.
Et les jeunes rêvent aussi, parce que c'est vrai, il y a des modèles qui font rêver.
Et ça, c'est le propre d'être jeune. Hein.
Et c'est très bien, parce que dans ces jeunes qui rêvent, je suis certain qu'il y en aura, qui réussiront.
Les Mark Zuckerberg africains.
Ceux qui font les Facebook, ceux qui ont fait les Apple. Et dans deux, enfin, les Mossadegh Bali, ils vont en avoir de plus en plus, et ça, c'est bien.
Ouais, Amidouane.
Alors, moi, je remettrai tout ça dans un contexte qu'on appelle depuis une dizaine d'années le temps de l'Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique est chantée, est vantée, la croissance, etc. Et donc, du coup, il y a un vent d'optimisme et de ferveur et qui n'échappe pas, bien entendu, à la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est le moment pour être idéal, pour rêver, pour avoir une forme d'utopie, parfois même parfois béante. Mais je pense qu'il faut, à un moment donné, pour toute ferveur, parfois relativiser. C'est un discours qui peut être très difficile, mais je pense qu'il est nécessaire de le porter. À côté des entrepreneurs qui font de réelles choses, des gens qui ont bâti vraiment des empires, qui créent des emplois, qui contribuent à la construction de la richesse dans les pays, il y a aussi cette mode aujourd'hui de la starisation de l'entrepreneur, de la start-up vantée partout, dans les forats, par les multinationales, par les gouvernants et par les jeunes, par les toutes formes d'associations. Et je pense que moi, j'ai une réserve basée sur un triple aspect. Le premier, c'est que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Pour moi, ce n'est pas un métier, entrepreneur.
Ah bon?
C'est un instinct. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, ce n'est pas possible. Et même, on voit aujourd'hui, parfois, dans certaines institutions, des États qui disent « délivrer un diplôme d'entrepreneur ». Moi, je ne sais pas ce que c'est, par exemple. Donc, c'est un instinct, c'est une opportunité qui rencontre un certain contexte, parfois familial, parfois de diplôme et parfois de contexte.
La plupart des entrepreneurs en Afrique sont finalement des entrepreneurs familiaux, d'ailleurs.
Oui, bien entendu.
C'est votre cas, Mossadegh Bali, finalement. Vous avez été à bonne école chez votre père, vous l'avez dit.
Et la deuxième réserve, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des pays où les États ont failli. L'État hérité de la colonisation a failli à porter une politique cohérente et rigoureuse en matière d'emploi, par exemple. Donc, du coup, tout est urgent dans nos pays. Et je pense qu'on a autant besoin d'entrepreneurs que des gynécologues, c'est les déserts médicaux, d'enseignants, de policiers, etc. Mais qui ont aussi l'éthique, l'envergure et la nécessité portée en banlieue de contribuer au développement social et au progrès. Et toute dernière chose, pour moi, qui justifie ma réserve, c'est cette déresponsabilisation finalement des États. Les États ayant failli, on se rend compte aujourd'hui qu'ils n'ont pas de politique cohérente et du coup poussent les jeunes allez, entreprenez, allez-y, osez entreprendre. Je vois ça sur les t-shirts des jeunes depuis deux jours que je suis à Bamako. Osez entreprendre. Donc,
qui c'est déresponsabilisé. Ça vous énerve ou pas, ce genre de slogan?
Ça me gêne un peu, ça me rend circonspect et ça rend nécessaire le discours que certains portent pour dire attention, attention, les États ne peuvent pas donner de l'emploi à tout le monde, mais ont une responsabilité vis-à-vis de la jeunesse, de les éduquer, de les soigner et de contribuer à, en tout cas, façonner une meilleure destinée pour eux.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, nous sommes à Bamako pour débattre sur l'entrepreneuriat des jeunes avec des invités, des sensibilités différentes sur le sujet. L'entrepreneuriat des jeunes est-il un mirage ou une vraie solution pour l'emploi? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les multinationales ont toutes leurs concours pour récompenser les meilleurs projets. Ici au sommet jeunes, en marge du sommet Afrique-France, on distribue des bons points. Qu'est-ce que vous pensez, Fatoumata Sango, de ces concours d'entrepreneuriat de jeunes? Je sais que vous êtes dans des jury, vous aussi, Fatoumata.
C'était pas spécifiquement pour ce sommet, mais j'ai eu la chance d'avoir été dans d'autres. Moi, je voulais rebondir juste avant de donner mon point de vue par rapport au concours. Un avis un peu plus nuancé par rapport à Didier et Anne. Moi, je pense qu'il faut vraiment encourager le rêve des jeunes. Je pense que je suis plus du côté d'offrir ce rêve à cette jeunesse-là. Et je pense que c'est ce courage et cette motivation, ce rêve dont ils ont plus besoin aujourd'hui. Parce que je pense que c'est vrai qu'après, la réalité vient. Il faudra ce coaching dans tous les cas pour réussir l'entrepreneuriat. Mais avant d'arriver à cette réalité, il faudrait créer l'envie d'entreprendre. Il n'y aura pas d'entreprise créée par des jeunes si on ne crée pas cette envie, si on ne casse pas ces barrières et ces contraintes qui existent aujourd'hui, qui sont énormes. Mmh. Ces obstacles, elles sont vraiment réelles. Il y a les obstacles, bien sûr, de financement, les obstacles administratifs, mais il y a de gros obstacles sociaux, en fait. Des blocages sociaux, des blocages en termes de confiance en soi. Et il y a un important travail à faire par rapport à cette jeunesse africaine et particulièrement cette jeunesse africaine francophone.
Didier, à côté.
Je suis d'accord avec Fatoumata sur le fait qu'il faille rêver les jeunes, mais attention, on a fait rêver les jeunes pendant des années en disant que c'était l'Occident le modèle et des jeunes se jettent à la mer tous les ans parce qu'ils croient que le rêve, c'est l'Occident. Aujourd'hui, on dit rêver, entreprenez, mais entreprendre, mais c'est galère. Les jeunes, il faut le comprendre. Moussa Dekbali ne me contredira pas. Être patron, c'est galère. C'est passionnant, mais c'est galère. Et donc, faire rêver les jeunes en disant « Créez votre entreprise », des jeunes que je vois dans les concours, qui parfois n'ont pas de niveau d'études leur permettant de comprendre même ce que c'est l'entreprise, qui n'ont jamais même fait de stage en entreprise, et qui viennent en disant « Je suis le PDG de cette entreprise » avec un business plan qui ne ressemble à rien, et on en voit d'ailleurs dans l'émission « 7 milliards de voisins », les faire rêver, c'est du casse-gueule. Au contraire, il faut plus de réalisme. Évidemment, il faut donner la passion, et ça je suis là Fatoumata, il faut faire rêver les jeunes, leur donner l'ambition de rêver, mais il faut leur donner les moyens de cette ambition et de ces rêves, et c'est ça qui n'existe pas.
Plus
comment
de réalisme.
Vous ne formez pas bien des jeunes qui peuvent entreprendre? Comment vous n'avez pas d'incubateur? Comment vous n'avez pas des business? Comment vous n'avez pas de fonds d'investissement, etc. C'est un écosystème qui permet de transformer le rêve en réalité, parce que ceux qu'ils voient, on a parlé de Facebook, ces jeunes quand ils étaient sur les campus, des investisseurs, des business angels, des fonds d'investissement sont venus les rencontrer en disant « Votre projet me plaît, on va vous incuber ». Ça n'existe pas. Donc, le rêve, c'est bien, mais attention, les gars, c'est galère.
Mais on va vous incuber, ça veut dire quoi? Sur un continent où l'essentiel de l'emploi est informel, où la frontière même entre le formel et l'informel, à savoir le formel, c'est-à-dire des entreprises qui sont déclarées, qui payent des impôts, etc. Cette frontière-là, elle est très poreuse, où les petites entreprises informelles sont en compétition avec de petites entreprises formelles. Est-ce que les jeunes vont changer cette réalité-là, cette complexité-là du continent africain, Moussa Dekbali, en créant leur boîte?
Moi, je suis un partisan, mais vraiment à 500% de l'entreprise. C'est vrai que j'ai une histoire un peu particulière, comme j'ai un ami qui me dit « je suis tombé dans la soupe à très bas âge, comme un peu Astérix et Obélix ». Quand j'étais gosse, j'allais à l'école, les congés, je les passais dans les boutiques de notre père à vendre des tissus. Donc, je pense que la clé est là. Il faut qu'on ait un écosystème, même dans l'éducation, qui inculque dès le bas âge cette envie d'entreprendre, cette envie de faire quelque chose par soi-même. Et il y aura beaucoup qui vont échouer, il y aura quelques-uns qui vont réussir. C'est un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui, les écoles de football. Vous avez 1000 jeunes qui passent par les centres de formation de football, mais il y en a combien qui deviennent professionnels? Peut-être 2, 3 ou 4, grand maximum 5.
Et que deviennent les autres? C'est la grande question.
C'est la grande question. Mais au moins, là, vous aurez un Pogba, vous aurez un Thierry Henry qui va sortir. C'est pareil pour les entreprises. Donc, je pense que ce qui manque dans nos pays, c'est l'écosystème, l'accompagnement, le coaching, les problèmes de fiscalité, les problèmes de financement. Mais comme le dit aussi Didier, beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent que être entrepreneur, c'est la panacée. Être entrepreneur, c'est un costume cravate. Non, être entrepreneur, c'est un sacrifice. Vous sacrifiez quasiment tout. En tout cas, si vous voulez réussir, vous sacrifiez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour réussir. Et ça, beaucoup de jeunes ne le comprennent pas simplement parce qu'ils ne sont pas formés pour cela.
Mais justement, vous disiez qu'il faudrait former les jeunes dès le bas âge, enfin, dès l'enfance à l'entrepreneuriat. Mais est-ce que, Hamidouane, vous êtes d'accord avec ce concept de forger une nation sous la bannière de l'entrepreneuriat?
Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'on puisse former dès le bas âge des jeunes à entreprendre. Et tout ceci, encore une fois, vous avez parlé de complexité, c'est important. Dans un pays, on a besoin de beaucoup de choses. Je vais me répéter, certes, on a besoin de médecins, on a besoin d'enseignants, on a besoin de ces gens-là, on a besoin de gens aussi qui cultivent l'intérêt général, et c'est important.
Ce que vous dites, c'est que pendant qu'on s'occupe des jeunes entrepreneurs, on ne cultive pas l'intérêt général, on ne forme pas de gynécologues, on ne prend pas de décision de politique publique pour améliorer la santé, etc. C'est ce que vous semblez dire, finalement, que l'entrepreneuriat paralyse une autre forme de progrès du continent, ou pas?
Non, je n'ai pas dit ça. Il y a un encouragement aujourd'hui à la méfiance.
Je veux savoir jusqu'où vous voulez aller.
Oui, à la méfiance et à la défiance vis-à-vis de tout ce qui est politique publique. Par exemple, hier, j'étais au forum pour un panel, mais quand j'ai dit pour moi, ma conception du leadership, c'est un jeune politisé. Je précise le terme politisé, pas qui est dans les partis politiques, qui fait de la politique partisane, mais quelqu'un qui est conscient des rapports de force dans un pays, qui comprend la question de l'intérêt général, etc. Le service public, c'est quelqu'un de politisé, c'est ça un leader. Alors là, il y a une volée de bois vert, etc. Je pense que dans des pays en Afrique où tout est urgent, on ne construit pas une nation en cultivant une défiance vis-à-vis du fait politique, du fait public. Et ça, c'est important. Et on a besoin de puissances publiques qui sont solides, qui sont cohérentes avec des politiques publiques rigoureuses, qui puissent répondre à la question de la formation, à la question du social, à la question de la
culture. Ça veut répondre là en face de vous, Amidouane. Oui. Fatoumata, Sango. Oui.
Les jeunes Africains n'ont pas cette culture de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, nous avons été oubliés. Nous avons été cette génération complètement oubliée de cette question, de nous donner confiance en nous-mêmes, que nous aussi, nous sommes capables de créer des entreprises, que nous aussi, nous sommes capables de contribuer en fait à la création de richesses et que nous aussi, nous sommes capables de prendre en main notre destin à travers la création d'emplois pour nous-mêmes et pour les autres jeunes. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui l'une des questions les plus essentielles du développement de l'Afrique? J'aimerais juste terminer par partager une expérience personnelle, c'est que nous organisions avec l'Association pour le développement de l'Afrique, que je préside, chaque année, un camp de leadership jeune. À partir de cette année, désormais, nous sommes beaucoup soutenus par le gouvernement américain pour cela. Nous avons introduit l'entrepreneuriat parce que toutes les problématiques en fait qui touchent la jeunesse et les enjeux auxquels nous faisons face. Et nous nous sommes rendus compte que la question du chômage aujourd'hui, elle n'a pas de réponse au niveau des pouvoirs publics, elle n'a pas de réponse même du secteur privé aujourd'hui.
Si on a tout tenté, pourquoi ne pas tenter l'entrepreneuriat, sous-entendu, puisqu'on n'avait pas de solution jusque-là, c'est ça finalement.
Oui, et c'est parce que c'est une bonne réponse.
Didier à côté.
Ce que disait Moussa Lekbali, faire comprendre aux jeunes et leur inculquer l'esprit d'entreprise, c'est simplement leur donner envie d'oser. Le médecin peut oser, le menuisier peut oser, en fait c'est ça, c'est qu'il faut que les gens arrêtent de penser que l'État-providence leur donnera tout. Donc, l'esprit d'entreprise, c'est plutôt dire aux gens, vous pouvez oser, quelles que soient vos compétences, quelle que soit votre formation.
Ma crainte, c'est juste de remplacer un dogme par un autre. Monsieur Bali l'a dit tout à l'heure, il y a 40 ans, l'État pouvait embaucher tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc du coup, est-ce que si on remplace le dogme de l'État-providence, et je suis totalement d'accord avec vous, par le dogme de entreprendre à 200%, j'ai mes réserves là-dessus.
Hamidouane parle en connaissance de cause, il a démissionné de la fonction publique au Sénégal, si je ne me trompe pas. Vous restez avec nous, nous rendons l'antenne pour le Flash à Paris, puis suite de notre débat à Bamako, l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique, un mirage ou une vraie solution pour l'emploi. Restez avec nous, on revient dans un peu plus de 3 minutes sur RFI.
Émission spéciale, sommet de Bamako.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Suite de notre émission à Bamako sur l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Mirage ou vraie solution pour l'emploi. Pendant ce 27e sommet Afrique-France, les sujets de développement économique sont bien présents. Mercredi, jeudi, il y a un forum des jeunes, également un forum économique largement soutenu par le MEDEF, l'organisation patronale française. Plus que jamais d'ailleurs mobilisé cette organisation sur ce sujet. Le MEDEF qui ne veut pas rater le départ d'une nouvelle génération pour le continent. Et bien sûr, accompagné par les bailleurs de fonds, par les multinationales. Nous enregistrons cette émission sur une très belle terrasse juste à côté du Forum Jeune dans le restaurant italien Guido's qui nous héberge. Et nos invités autour de la table, Amidou Anne, sénégalais, chroniqueur pour Le Monde Afrique et pour le site L'Afrique des Idées, diplômé de l'ENA au Sénégal, passé par la France aussi. Et par les cabinets ministériels, Fatoumata Sango, malienne, jeune leader, ex-invitée à la Maison Blanche chez Obama, qui a créé l'Association pour le développement de l'Afrique, Mossadegh Bali, fondateur et président directeur général du groupe Azalai Hotels, et Didier Akoté, bien sûr, d'Afrique Search. Mossadegh Bali, vous nous disiez pendant le flash, parce que le débat continuait enflammé, finalement, on n'aurait même pas ce genre de débat en Afrique anglophone. Hein?
Oui, parce que pour moi, un pays, c'est comme un corps humain. Le corps humain a besoin de tous ses organes. Donc, on a besoin d'entrepreneurs, on a besoin de l'État. Vous savez, un chef d'entreprise qui travaille dans un pays, la chose dont il a le plus besoin, c'est un État fort, un État qui édicte des règles, qui respecte des règles, qui fait respecter la loi. C'est de ça dont a besoin un chef d'entreprise. Donc, ce débat entre privé et public, pour moi...
Qui respecte des lois qui lui sont favorables en général. Hein?
Pas forcément, mais...
Qui profite au développement du pays, en fait.
Au développement, vous savez, quand vous avez des tribunaux qui fonctionnent bien, quand vous avez une fiscalité qui est allégée, stable, quand vous avez une politique de formation qui met sur le marché ce dont ont besoin les entrepreneurs. Moi, je suis entrepreneur dans 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Je sais ce dont j'ai besoin pour mon entreprise, mais personne ne vient me demander.
Attendez, les milieux économiques ne sont pas déconnectés des milieux politiques en Afrique. Enfin,
non, les milieux politiques sont déconnectés des milieux économiques.
Mais, vous parlez tout de même.
Non, c'est deux mondes différents.
Vous allez dans les mêmes réceptions, dans les mêmes cérémonies.
Madame Bastide, je vous donne un simple exemple, mon cas. Je suis chef d'entreprise. Ça fait 22 ans que j'ai créé cette chaîne hôtelière. Je suis présent un peu partout en Afrique de l'Ouest. J'ai déjà créé presque 1000 emplois. Mais j'ai été invité à partager mon expérience dans une conférence organisée par la Harvard Business School. Il n'y a pas une université en Afrique de l'Ouest qui m'a déjà invité pour venir partager avec des étudiants, des jeunes.
Les écoles de commerce privées vous invitent.
Les écoles de commerce et tout ça. Sauf ISM qui a organisé une conférence il y a quelques années. Mon ami Doudou Diaw m'a invité pour venir parler de l'expérience, comment on crée une entreprise en Afrique de l'Ouest. Ce sont des exemples. C'est pour vous dire, en Afrique, dans les pays francophones, le monde économique est assez déconnecté du monde politique. Ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. C'est pour ça que dans les pays anglo-saxons, entreprendre est tout à fait naturel, simplement parce que l'écosystème favorise cet entrepreneuriat.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça, c'est le plus gros problème aujourd'hui et challenge de cette jeunesse africaine.
Didier Akoté.
Alors, ce que disait Moussadek, c'est vraiment profond. C'est-à-dire que dans les pays francophones en particulier, il y a une déconnexion totale entre le monde politique et le monde privé. Regardez les biographies des ministres dans les pays francophones. Regardez leur parcours. Combien connaissent le secteur privé et le monde de l'entreprise? Et il est très bien placé, Mossadegh, pour voir comment les politiques publiques sont articulées à la défaveur des entreprises.
Absolument.
Et du secteur privé, parce que ça aussi, c'est une culture. Quand on a été élevé dans cette culture, entre guillemets, française, où c'est seulement l'État qui donne de l'emploi, l'État qui crée de la richesse, forcément, le secteur privé n'existe pas aux yeux de l'État, et donc il y a un rattrapage qui est beaucoup plus long. Deuxièmement, l'université, qui soi-disant forme l'élite africaine. Ceux qui font l'Afrique de demain, université déconnectée du monde de l'entreprise. Combien d'incubateurs avez-vous dans les universités africaines? Combien d'étudiants africains font des stages dans le secteur privé pour savoir ce que c'est l'entreprise? Ça ne veut pas dire qu'ils vont travailler forcément dans le secteur privé. Mais comment voulez-vous que l'État soit articulé si l'État ne comprend pas celui qui crée la richesse? L'État ne crée plus de richesse. D'ailleurs, les privatisations, bon, qu'on les critique ou qu'on les critique pas, c'est le secteur privé qui crée la richesse. Et en Afrique, 90% du secteur privé, ce sont les PME, mais allez interviewer les PME, les patrons de PME, et demandez-leur à combien de marchés publics elles sont sollicitées pour participer, quelle est la fiscalité qui leur permet de se développer, quel est l'écosystème financier qui leur permet de se développer. Donc, il y a une déconnexion entre l'université et le secteur privé, et entre l'État et le secteur privé.
Amidou, Anne, vous qui avez étudié en licence de lettres à l'université Charenta Diop, là où on ne comprend rien au monde économique, puisque c'est ce qu'on nous dit.
Moi, personnellement, j'y comprends rien. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire très modestement que je ne suis pas entrepreneur, je ne sais pas faire, j'ai pas l'instinct entrepreneurial, etc. Non, si Didier Coutier dit qu'il y a une déconnexion entre l'université et le monde économique, je peux être d'accord. Mais je ne partage absolument pas l'avis selon lequel il y a une déconnexion entre les milieux politiques et les milieux économiques. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui l'exemple du Bénin, pour savoir qu'il y a toujours une déconnexion, parfois même douteuse, entre les deux.
Oui, mais pour faire quoi ? Pour escroquer le secteur privé, pour vivre de prébends du secteur privé. Là, on est d'accord.
Non, je n'ai pas dit qu'on était d'accord. L'exemple de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand vous voyez dans le gouvernement ivoirien, vous ne pouvez pas dire non, il y a une déconnexion entre les deux. Non, je ne suis pas d'accord.
Le Premier ministre du Sénégal aujourd'hui, par exemple. Il y a quelques exceptions. Oui, mais de manière générale, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Sinon, les croissances que nous avons en Afrique, on verrait bien qu'il y aurait plus d'entreprises secteur privé. On verrait bien qu'il y a plus d'emplois, etc.
Oui, et puis aussi, il y a une ancienne qu'on répète, c'est-à-dire qu'être chef d'entreprise prospère ne fait pas un bon politique. C'est quand même différent. Enfin,
Pour moi, c'est complètement différent aussi. Enfin, voilà. Mais un bon chef d'entreprise peut aussi faire un bon politique.
Mais, Amidou Anne,
oui, je suis d'accord, mais pas forcément.
Qu'est-ce qui vous dérange dans le fait, Amidou Anne, que l'entrepreneur aujourd'hui, finalement, soit doté d'une, tout de même auprès des jeunes, dans les médias, d'une aura que n'ont plus les politiques? Politique. C'est le nouveau héros des temps modernes africains, l'entrepreneur aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Et ça me permet de revenir un peu quelques mois en arrière. Il y a une tribune qui est parue dans le Monde Afrique de Jean-Michel Severino, qui parlait de l'entrepreneur.
Fondateur du fonds d'investissement IEP Partenaire, voilà, et ancien patron de l'Agence française de développement.
Voilà, qu'il mettait au nu après, et à l'inverse, parlait des politiques comme artisans de la régression sociale en Afrique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est remplacer un dogme par un autre.
Vous dites
que
c'est dévastateur, ça ou pas, de dire.
Mais bien sûr que c'est dévastateur, parce que c'est un discours qui n'est pas basé sur la vérité. On ne peut pas dire que tous les entrepreneurs sont vertueux et que tous les politiques sont mauvais.
Non. Encore une fois, je reviens à ce qu'on dit. Il n'y a que dans les pays francophones où on a ce genre de débat. On peut pas dire choisissez entre votre cœur et votre poumon, vous avez besoin des deux. Il y a des gens qui ne feront que de la politique, il y a des gens qui ne feront que l'entrepreneuriat. On a besoin d'un peu de tout ça. Mais ce qu'on dit dans nos pays francophones, c'est que il y a des projecteurs qui sont mis trop sur le monde politique. Je prends un exemple tout bête. Ouvrez le journal télévisé d'un pays francophone, que ce soit le Mali, le Sénégal.
Ou la presse nationale.
Prenons le journal télévisé. D'abord, ça dure 50 minutes. 40 minutes est consacré au chef de l'État, au ministre.
Qui a visité.
Mais attendez, un ministre de la Santé, s'il vous plaît. Un ministre de la Santé qui visite un hôpital, est-ce que c'est une nouvelle? Il fait son travail. On n'a pas besoin de ça. On a besoin que nous parle des problèmes réels d'un pays. Mais on ne parle jamais d'entrepreneuriat. Et c'est ça le problème.
Si on revoit quand même la façon dont les politiques perçoivent l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on est passé d'une politique de développement qui était tournée essentiellement vers l'accès collectif des jeunes générations à l'éducation, à une vision aujourd'hui finalement en marge de la volonté politique où le développement se réaliserait grâce à une somme de petits destins individuels?
90% des secteurs privés fait de PME qui donne 60% du job, c'est pas des destins individuels. Simplement, la différence, hier, on a fait croire à ces jeunes que dans le cadre d'un destin collectif, tout le monde pouvait trouver son salut parce que l'État allait garantir son avenir. Or, aujourd'hui, on se rend compte que l'État ne l'a pas fait, en plus très mal formé, donc a formé des millions de chômeurs, et que malheureusement, c'est chacun pour soi. Donc, chacun se débrouille. Vous voyez les Émidiens au Bénin ou au Togo, des gens qui ont été à l'université, donc qui ont des niveaux d'études supérieurs, qui conduisent des mototaxis. Mais enfin, c'est-à-dire que c'est sauf qui peut. Donc les jeunes se débrouillent parce que le destin collectif n'existe plus, l'État ne l'incarne plus, et c'est sauf qui peut. Comme l'écosystème dont nous parlions, l'État ne le met même pas en place, et bien chacun se débrouille. Oui. On vend des recharges de téléphone au feu, on conduit de moto-taxi.
Donc l'État pourrait incarner, l'État devrait incarner de nouveau un destin collectif tout en permettant un écosystème de PME, c'est ça?
Mais totalement, moi je n'ai pas dit autre chose. Mais d'ailleurs, tout ce que M. Akwete vient de dire, M. Bali, toutes ces choses-là interrogent la capacité de réaction et de réponse de l'État. Quand on parle d'écosystème, quand on parle d'environnement des affaires, quand on parle de fiscalité, quand on parle surtout de formation, qui est pour moi le problème numéro un de la jeunesse en Afrique, parce que oui, on dit tout le temps, il y a beaucoup de choses qu'on ressasse, qu'on répète partout, et c'est pas vrai. Par exemple, quand on dit oui, il y a tant de millions de jeunes au chômage, etc., qui sont diplômés. Allons creuser plus loin. Enfin, quelles sont les compétences de ces jeunes-là? Ils sont diplômés en quoi, etc. Je veux dire, il y a combien de diplômés aujourd'hui de marketing? Il y a combien de diplômés de lettres qui sortent et qui ne parlent ni le Wolof, ni le français, qui ne parlent aucune langue? Donc, toutes ces questions-là interrogent la réponse de l'État. Donc, je n'ai pas dit que l'entrepreneuriat, c'est pas bien, il faut entreprendre. Mais il ne faut pas non plus installer, à mon avis, au sein de la jeunesse africaine, une défiance vis-à-vis
du fait public. Est-ce que pour vous, les politiques ont intérêt à ce que l'entrepreneuriat des jeunes se développe sans eux, en dehors d'eux?
Les politiques ayant failli complètement, aujourd'hui, ont changé de fusil d'épaule. Aujourd'hui, ils sont en train d'encourager les jeunes. Allez-y vers l'entrepreneuriat, de toutes les façons, tout le monde le sait, l'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde, etc. Allez-y. Effectivement, ça les arrange.
Mais moi, j'aimerais juste réagir par rapport à la formation. Qu'est-ce qu'on fait? L'État, dans les cabinets ministériels, on dit on va former tant de psychologues, tant de marketing et ainsi de suite. Mm-hmm. Mais on n'en a pas besoin. On a besoin de formation de base parce que nos économies sont des économies de base. Ce n'est pas une économie des États-Unis ou de la France. On a besoin d'électriciens, de IT et des choses comme ça. Mais des psychologues, des sociologues, il y en a besoin de quelques-uns, mais pas de beaucoup. Il faudrait que ceux qui font les politiques de formation écoutent le consommateur final, qui est l'entrepreneur, qui crée des emplois. Ça, c'est un. De deux, tout ce débat-là tourne en fait autour du rôle de l'État. C'est quoi le rôle de l'État dans un pays? Le rôle de l'État, c'est d'assurer l'égalité des chances, de faire en sorte que la loi soit applicable à tout le monde, de clarifier les règles, que ce soit la fiscalité, de mettre en place des incitations. Et comme ça, ceux qui veulent entreprendre, ils auront plus de chances de succès. Pourquoi il y a plus d'entrepreneurs dans les pays anglo-saxons que dans les pays francophones? C'est parce que l'État joue ce rôle-là dans l'écosystème anglo-saxon. Et nous, on a un État qui écrase tout. Et du coup, même les jeunes, vous avez beaucoup de jeunes qui veulent être ministres, qui veulent être douaniers, qui veulent être aux impôts, parce que c'est ça qu'ils voient à la télé. Et c'est ça qu'ils voient dans la vie réelle aussi. Voilà.
Qui écrase tout, qui ne fait pas le job quand on va à l'université.
Non, mais parce que le moyen de s'enrichir le plus vite et le plus rapidement en Afrique, c'est de travailler pour l'État, c'est-à-dire de travailler pour la douane, de travailler pour les impôts.
Amidouane est désespéré.
Non, mais vous n'avez pas vu le sondage l'année dernière où on demandait aux jeunes où est-ce qu'ils voulaient travailler? Ils disaient qu'ils voulaient être dans la fonction publique parce qu'ils disent que c'est le moyen de gagner le plus rapidement
mais
l'argent.
On ne pas dans la fonction
même si
publique,
tu n'as pas de compétences. Non, mais heureusement.
Là, je parle d'un exemple personnel.
Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que les mauvais exemples de réussite de gens qui travaillent pour l'État de manière parfois malhonnête, inspire certains jeunes, alors que 95% des bons fonctionnaires comme vous, jadis, eux, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Et aujourd'hui, si on peut, comme le disait Moussadek, réhabiliter dans nos pays francophones, enfin, le rôle de l'entrepreneur, le fait qu'il crée la richesse et que l'État lui donne les conditions de créer la richesse et l'emploi, ça, c'est un message qui est positif. Mais pour faire ça, il faut que le fonctionnaire comprenne ce qu'est le secteur privé.
Fatoumata Sango.
Le jeune, il va continuer à rêver, à avoir des modèles publics, politiques, la fonction publique. Parce que justement, il y a tout ce travail à faire et je pense que c'est ce boom et ce train que nous ne devons pas rater aujourd'hui au niveau africain. C'est qu'il faut donner envie aux jeunes d'entreprendre. Ce sont les entreprises qui créent la richesse. On ne peut pas rester en marge. Mais pour le faire, il faut que les politiques mettent cela au centre de leurs préoccupations et de leurs priorités. Et pour le faire, ils ne pourront pas le faire sans le secteur privé. Il faudra à renforcer davantage le partenariat public-privé.
Justement.
Mais pas qu'en termes politiques. Il faudrait vraiment travailler avec le secteur privé, les écouter, intégrer leurs préoccupations, leurs besoins aussi. C'est pour ça qu'on parle d'inadéquation entre l'emploi et la formation, parce que si on n'écoute pas ces entrepreneurs, ces chefs d'entreprise sur leurs besoins, on ne pourra pas en fait adapter les politiques publiques d'éducation.
Justement, nous allons y venir dans quelques instants chez 7 milliards de voisins. Nous allons parler de la formation et de tout l'écosystème pour permettre l'éclosion de ces petites entreprises portée par des jeunes, de l'accompagnement, du coaching, ce que vous faites notamment, Didier Akwété.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous sommes bien à Bamako, au moment du 27e sommet Afrique-Afrique. France. Et en marge de ce sommet très politique, bien évidemment, beaucoup de discussions économiques. Et nous posons cette question, l'entrepreneuriat des jeunes est-il un mirage ou une vraie solution pour l'emploi? Alors justement, les jeunes aujourd'hui sont extrêmement agiles, notamment dans le numérique, vous le savez. Comment est-ce qu'on peut faire le lien? Je m'adresse à vous, Mossadegh Bali, parce que vous êtes souvent à court de compétences dans votre groupe hôtelier que vous avez fondé, Azalai Hotels, entre l'agilité naturelle pour les nouvelles technologies et l'apprentissage de métiers qui sont indispensables à la création de toute entreprise.
Oui, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de donner la chance à ces jeunes de mettre en pratique leurs compétences. Parce qu'avoir, je dirais, une compétence ou de l'envie de faire quelque chose et pouvoir le pratiquer, il y a un monde. Et souvent, c'est ça qui manque dans nos pays.
De quoi vous manquez dans vos hôtels? C'est quoi votre souci de tous les jours?
Il nous manque du tout, pour la simple raison que...
De tout? Il vous manque de tout?
Il nous manque de tout, pour la simple raison que dans cette filière, dans cette industrie du tourisme, il n'y a pas d'école de formation. Au point que nous avons créé maintenant, depuis un an, notre école ici. Nous avons une école de formation au métier de l'hôtellerie. Et nous allons progressivement d'ailleurs ouvrir d'autres filières telles que le tourisme, agence de voyage, guide touristique. Parce que nos États, encore une fois, ça revient à ce débat politique. Vous avez la politique. Oui, nous avons des secteurs ciblés. Et dans tous les pays, le tourisme est l'un des secteurs ciblés parce que ça crée beaucoup d'emplois. Mais derrière, il n'y a rien. Dans tous nos pays, vous n'avez pas d'école de formation professionnelle au métier de l'hôtellerie et du tourisme. Donc nous, avec nos propres moyens...
Vous faites le job de l'État, là?
Nous faisons le job de l'État. Alors que, sur chaque fois que je paye 100 francs à un salarié, je prélève 2,5% qu'on appelle taxe d'apprentissage, oui, que je verse à l'État.
Et formation professionnelle. Donc vous ne voyez jamais les deniers,
on
c'est
ne voit jamais
ça,
les deniers.
Tous les entrepreneurs africains nous
on
le disent.
On ne voit jamais les deniers. Ça sert à payer des fonctionnaires, ça sert à payer des conseils d'administration. On ne voit jamais rien. Donc pour nous, ça devient un impôt supplémentaire. On prélève sur notre chiffre d'affaires, on a créé l'école, on a construit, on a acheté du matériel, on a fait venir des professeurs de France et nous sommes en train de former des jeunes Maliens au métier de l'hôtellerie. Ce n'est pas notre métier, mais on est obligé de le faire. Si l'État jouait son rôle, nous n'aurons pas eu à faire cette école-là. Nous ouvrons un hôtel, nous avons besoin de 100. Ils ne sont pas disponibles. Alors qu'il y a des universités qui forment des jeunes qu'on ne peut pas
en Afrique de l'Est, notamment au Kenya, par exemple.
En Afrique de l'Est, vous avez des bonnes écoles. Le Maroc est un pays qui a compris ça, qui forme. La Tunisie, jusqu'à la crise, était un pays qui formait tout ça. Donc, moi, je dis, avoir l'envie, c'est une chose, mais il faut qu'il y ait des politiques publiques audacieuses qui forment les jeunes que les consommateurs, que sont les chefs d'entreprise, peuvent embaucher. Moi, tous ceux qui sortent de l'université à Bamako, je ne peux pas les embaucher. Mais parce qu'ils n'ont pas la formation.
Parce qu'ils n'ont pas ce que j'appelle le socle commun de compétences. En réalité, Emmanuel, le fond...
Ce problème-là, on le retrouve aussi pour un jeune qui monte une petite entreprise qui a déjà 5 personnes, qui tout de suite se heurte, en fait, dès qu'il veut grandir, à un problème de recrutement. Ils nous disent, les jeunes qui viennent dans l'émission.
Parce que le système éducatif déforme et ne forme plus. Quelqu'un comme Mossadegh Bali ou les chefs d'entreprise qui nous écoutent, si au moins les étudiants qui sortaient du système scolaire, que ce soit le lycée, l'université, ils avaient ce que j'appelle le nouveau socle commun de compétences, c'est-à-dire savoir réfléchir, savoir s'adapter, savoir utiliser les nouvelles technologies, avoir une sensibilité au marché. Quand ils ont ce socle commun, quand ils arrivent à Azalai, en 2 mois...
Si soi-disant les jeunes n'ont pas ce socle commun de compétences, comment peuvent-ils monter de petites entreprises?
C'est justement ce qui est rendu plus difficile. Et justement ce qu'on dit, s'ils ne l'ont pas, ceux qui sont diplômés ou ceux qui ne sont pas diplômés, qui veulent au moins entreprendre, il faut qu'on ait des espaces qui leur donnent ces éléments de base. Quand vous publiez des annonces pour certains postes, pour un poste, vous avez 3000 diplômés qui postulent et vous en trouvez à peine 3 qui correspondent et qui savent s'exprimer. Ou écrire.
Ça, c'est votre vécu d'Afrique Talent.
Ou même au Mali, où on avait fait des opérations de recrutement, ou des pays comme le Niger. Enfin bref, vous vous rendez compte en fait que le système éducatif n'a même pas réussi à asseoir ce que j'appelle ce socle commun qui vous permet ensuite de vous adapter. Parce que 30% des compétences dans le marché a besoin dans les 5 prochaines années, personne ne les connaît. L'évolution du métier de
Mossadegh
Bali, dans 10 ans, il y réfléchit, mais il ne le sait pas. Donc comment vous arrivez
les domaines de demain où les jeunes entrepreneurs sont attendus, vous ne savez pas.
Mais on ne les connaît pas. Mais justement, ce qu'on donne aux jeunes, c'est la capacité à s'adapter à ces marchés que personne ne connaît et à ces compétences que personne n'imagine.
C'est ce qui s'appelle la culture du risque, que vous détestez, Hamidou Anne.
la culture du risque. Moi, j'ai rencontré quelqu'un récemment à l'UGB. Et juste avant d'en parler,
je rebondis juste
à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui est quand même considérée comme une université d'élite au Sénégal. Alors, moi, j'ai rencontré donc à l'UGB quelqu'un, un mentor dans l'entrepreneuriat, qui disait qu'il a un programme pour les jeunes qui ont échoué à entreprendre pendant 3 ans, pour les récupérer et les relancer dans le bain. Je lui ai dit, ça aurait été drôle si ce n'était pas des vies humaines. Quoi. 3 années d'échec, après on redémarre, au bout de 3 ans, ça fait vite 6 ans, etc. Donc du coup, cette culture des risques à outrance, pour moi, elle me gêne.
On sort de cette terrasse, on prend des risques tous les jours et je préfère que quelqu'un prenne un risque pour créer une entreprise, créer un emploi, donner du job, que de s'asseoir chez lui et espérer que l'État lui donnera un job. Et donc ça, c'est bien.
Mais souvent, il le fait chez lui.
Vous savez, on dit souvent qu'un entrepreneur qui n'a pas échoué ne peut pas réussir.
Exactement.
Le début de l'émission disait, c'est la galère entreprendre. Il faut que les jeunes échouent pour réussir. C'est de l'expérience qu'on tire les meilleures expériences pour entreprendre demain. Donc ça, c'est bien. Des jeunes qui ont échoué 3 ans, c'est la meilleure école, l'échec.
Absolument.
Et ils peuvent rebondir sur ça.
L'échec est la meilleure école.
Et
moi, je dirais, en fait, les jeunes, plus que toute autre chose, Madame Bastide, il faut leur donner ce qu'on appelle le mindset en anglais, l'attitude vers l'entreprise, l'attitude. Quand vous avez l'attitude, que ce soit dans le domaine de l'informatique, de l'hôtellerie, les BTP, tout ça, vous pouvez faire votre chemin si vous avez l'attitude.
Bon, la souplesse, l'esprit positif.
Et c'est ça que les pays anglo-saxons arrivent à inculquer à leurs jeunes et que nous, dans les pays francophones, on n'inculque pas parce qu'on a ce modèle jacobin, ce l'État... 40 minutes de ministres qui font leur job, on nous montre ça.
D'accord.
On ne montre jamais un entrepreneur.
Je ne sais pas si la Gambie, en tant que pays anglophone, fait rêver.
Non, évidemment pas lui. Mais et où on croit que l'échec, c'est la fin du monde dans les pays francophones.
Voilà.
C'est-à-dire, quand vous avez échoué,
voilà.
Pour les gens, vous êtes fini. Mais pourquoi tu as essayé d'entreprendre? Mais pourquoi tu n'as pas été dans la fonction publique? L'échec, c'est le meilleur moyen pour réussir.
Pour les bondis, c'est ça, Didier. Le président américain qui va prendre fonction le 20, combien de fois déjà il a déclaré faillite, Donald Trump? Dans nos milieux ici, dans les pays francophones, c'est la honte de déclarer faillite. Alors que quand votre entreprise ne se porte pas bien, vous pouvez vous mettre sous la protection de la justice et repartir pour redresser l'entreprise.
Mais aujourd'hui, on nous parle d'incubateur, on nous parle de pépinière. Les auditeurs eux-mêmes ne savent pas du tout ce que ça veut dire, hein, cette espèce de mot barbare. Qu'est-ce qui se passe dans ces incubateurs, dans ces pépinières? Est-ce qu'il y a vraiment des coachs? Est-ce qu'il y a vraiment des mentors? Est-ce qu'il y a des nombres d'heures de programme? Est-ce qu'il y a des partages de jeunes en réseau? Et pour quels résultats? Didier à côté, vous qui les connaissez.
Certains sont pleins. À Bamako, par exemple, hier et aujourd'hui, j'ai rencontré des patrons d'incubateurs qui, effectivement, non seulement forment, conseillent, trouvent des financements, accompagnent les porteurs de projets et qui semblent être des modèles de réussite. Alors évidemment, c'est un peu comme les écoles. Sur une cuisine, on met école supérieure de management. Si tu y vas, tu n'apprends rien que bouger des fourchettes parce que ce n'est pas une école de management, c'est une cuisine ou un garage. Donc de la même manière, les incubateurs, effectivement, c'est des termes un peu très à la mode, développeur, incubation. Il faut pouvoir faire le tri pour savoir effectivement.
C'est trop tôt pour savoir pour quel résultat pour l'instant.
On voit quelques succès quand même. À Bamako, j'ai vu des startups qui ont été incubées. J'ai animé une session hier, des startups qui se portent très bien parce qu'elles ont été incubées.
Sur quel genre de domaine? Pour faire quoi? Pour rendre quel service aux consommateurs et aux citoyens?
Beaucoup dans les technologies, beaucoup dans le numérique et dans l'agrobusiness.
Vous savez, moi j'ai eu à donner une conférence à Impact Hub ici à Bamako, donc un incubateur. Et la salle était bondée, on aurait pu être dans une salle beaucoup plus grande. Et c'est là que j'ai senti que c'est vraiment une lame de fond. Vous avez des jeunes qui en ont envie, qui sont venus vers moi, qui veulent comprendre, qui veulent apprendre. Il suffit simplement de mettre l'écosystème pour que ces jeunes... Et quelques-uns de ces jeunes sont venus me voir au bureau. Et invariablement, tous, ils ont l'envie, mais ils sont bloqués, et notamment par les financements. Donc tant qu'on ne met pas en place cet écosystème, on peut avoir cette envie... Mais cette envie va vite s'estomper parce qu'il y aura tellement d'obstacles, que ce soit la fiscalité, que ce soit la réglementation, que ce soit la lourdeur administrative et surtout le manque de financement pour ces startups, que petit à petit, ben, ces jeunes vont se décourager.
On arrive au terme de cette émission. Je vais bien sûr vous laisser chacun un mot de conclusion. Alors l'entrepreneuriat des jeunes, mirage ou vraie solution? Amidou, Anne.
Alors, moi, je vais vous répondre avec une phrase de Souleymane Bachir Diagne qu'on ne peut pas suspecter de bolchevisme ou en tout cas de quelqu'un d'inculte.
Philosophe Diagne, sénégalais enseignant aux États-Unis.
Enseignant aux États-Unis, donc anglo-saxon. Bachir Diagne dit ceci: l'injonction faite aux étudiants d'entreprendre est un mirage.
Didier à côté.
faut donner le goût du risque, le goût d'entreprendre à tous les jeunes Africains et après ils choisiront. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait sans entreprendre? Le médecin, il entreprend, le pharmacien, il entreprend, l'agriculteur, il entreprend, celui qui vend des recharges au feu, il entreprend, celui qui conduit une moto-taxi, il entreprend. Donc tout le monde entreprend et c'est simplement donner cette couche à tout le monde et après ils choisiront.
Fatoumata Sango.
On n'a pas le choix, tout simplement. Chaque année, il y a 10 millions de nouveaux demandeurs d'emploi qui se présentent sur le marché. Donc le constat, il est clair. Même l'État l'a reconnu, le secteur privé, tout le monde. Donc il faut aller vers l'entrepreneuriat. Et je terminerai juste sur une note d'espoir, qui est cette fameuse citation que j'aime beaucoup du président Obama, que je l'ai entendue, mais il paraît que la citation, elle est du président Kennedy. C'est que les jeunes doivent se demander qu'est-ce qu'ils doivent faire désormais, en fait, pour l'État, et pas ce que l'État doit faire pour nous.
Moussa Degbali, je vous laisse le mot de la fin.
C'est un grand honneur d'avoir le mot de la fin. Moi, je dirais simplement, libérons les énergies. Voilà. Dans un pays, il faut du tout, il faut des politiques, il faut un État fort qui fait son job, et puis libérer ses énergies, et tout le monde va entreprendre. S'il a envie d'entreprendre, il y aura des échecs, et puis il y aura des succès.
Merci à vous tous, Moussa Degbali, groupe Azalai Hotels, Didier Akouété d'Afrique Search, Hamidou Anne, libre penseur pour le monde Afrique et pour le site L'Afrique des idées, Fatoumata Sango, l'association pour le développement de l'Afrique. Merci au restaurant Guido's de nous avoir accueillis. C'est bientôt l'heure du déjeuner, juste à côté du sommet des jeunes. À la technique, Benoît Raymond, au montage, Romain Dubrac et toute l'équipe de Paris qui a fait un super boulot à distance, Quentin Ferral, Camille Néran, Cécile Lavolo. Lundi, 7 milliards de voisins, retour dans le studio de RFI à Paris avec notre standard habituel pour vous donner la parole en direct tous les jours de la semaine, les voisins, du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.
C'est pas du vent.